Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Bonjour Pierre Hiverna.
Bonjour Caroline.
En fin d'émission, vous nous proposez la cerise sur le gâteau. Une cerise italienne aujourd'hui ?
Oui, ça se déroule à Turin en ce moment même. C'est la plus grande manifestation en Europe consacrée à l'alimentation.
A tout à l'heure en fin d'émission. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la Madeleine II, le souvenir gustatif d'une personnalité. Aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on écoute la Madeleine de la comédienne Romane Bourringer.
La Madeleine II, ce sera tout à l'heure vers 12h15. Quant au plat du jour, nous allons nous pencher sur les inégalités face à l'alimentation. Alors qu'Emmanuel Macron présentait son plan pauvreté, le Secours populaire révélait dans son baromètre Ipsos sur la perception de la pauvreté qu'un Français sur cinq a du mal à se nourrir quotidiennement et que la part de l'alimentation dans le budget moyen était sous la barre des 15%. Et une étude établissait un lien entre la consommation d'aliments de mauvaise qualité et les cas de cancer, comme pour les produits ultra transformés. Comment se nourrit-on en France aujourd'hui, selon qu'on est ouvrier ou cadre supérieur, jeune ou vieux, rural ou urbain ? Sommes-nous tous égaux face à la nourriture ? Bien manger est-il réservé aux riches ? Pour répondre à ces questions, nous sommes en duplex de France Bleu Occitanie à Toulouse avec Jean-Pierre Poulain. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et anthropologue, j'ai presque envie de dire le sociologue et anthropologue de l'alimentation aujourd'hui. Vous êtes professeur à l'université de Toulouse, Le Mirail, et titulaire de la chaire Food, Culture and Health Studies à la Taylor's University de Kuala Lumpur en Malaisie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment, j'en citerai deux qui peuvent nous servir aujourd'hui, Sociologie au pluriel de l'alimentation, paru aux éditions PUF et dont la quatrième édition a paru en 2017, et d'une Sociologie de l'obésité, paru également aux éditions PUF. Et puis j'ai le grand plaisir d'accueillir au téléphone avec nous Laurent Vallée. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes le secrétaire général du groupe Carrefour et vous êtes responsable de la transition alimentaire du groupe.
L'alimentation, c'est du lien social. Et quand vous vous retrouvez en précarité, ce manteau trop lourd de la honte qui finit par vous gêner, eh bien, vous isole de ce lien social. Et ça, c'est terrifiant parce que c'est de l'enfermement sur soi, c'est une déconsidération de soi, et ça, ça pèse beaucoup pour un individu.
C'était Thierry Marx, le chef cuisinier, parrain de la campagne Pauvreté-Précarité 2018 avec le Secours populaire qu'on entendait à l'instant. Puisque nous parlions de ce baromètre Ipsos pour le Secours populaire qui montre une situation de précarité alimentaire pour un Français sur cinq. Alors première question à vous, Jean-Pierre Poulain. Comment définit-on la précarité alimentaire ?
Alors c'est quelque chose d'un peu compliqué, c'est-à-dire comment est-ce que plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, vous ne mangez pas tout à fait ce que vous auriez souhaité, vous n'achetez pas tout à fait ce que vous auriez souhaité. Cette situation de tension sur les budgets alimentaires a pris une ampleur un peu nouvelle depuis une dizaine, une quinzaine d'années. En réalité, malgré une progression du pouvoir d'achat, globalement, eh bien, ce que l'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire la quantité d'argent qu'un ménage peut dépenser, après avoir dépensé le loyer, les abonnements, l'ensemble de dépenses qui sont fixes, cette quantité s'est réduite pour un nombre de foyers relativement importants.
C'est ce qui fait que l'alimentation est la variable d'ajustement des foyers les plus modestes aujourd'hui. C'est ça que vous voulez dire ?
Exactement. Et variable d'ajustement, donc avec des gens qui achètent pas ce qu'ils veulent, et puis des gens qui sont vraiment dans des situations de difficulté, et qu'on va retrouver aux banques alimentaires, aux Restos du Cœur, aux Secours populaires. Et on a ici, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 10% d'une population qui souffre dans le rapport à l'alimentation. C'est pas du tout la même. Elle a évolué, elle a changé, elle s'est transformée. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à réduire et qui, depuis quelques années, a même tendance à s'amplifier.
Comment l'expliquer ? On le sait. Quelles sont les causes ? Jean-Pierre Poulain.
Vous savez, dans un budget de ménage, il y a l'alimentation, il y a le loyer, puis il y a les loisirs, la santé et un certain nombre d'abonnements, la télécommunication par exemple, l'abonnement Internet. Ce sont des éléments qui sont venus réduire la partie du reste à vivre et ça touche l'alimentation.
21% des gens qui se sont déclarés en précarité alimentaire disent ne pas pouvoir s'offrir une alimentation saine et variée. Alors on est loin des 5 fruits et légumes par jour, parce que 39% de ceux qui gagnent entre 1200 et 2000 euros par mois n'arrivent pas à manger des fruits et légumes quotidiennement, et ils sont 53% de personnes quand les revenus sont inférieurs à 1200 euros mensuels. Est-ce que, Laurent Vallée, ce sont eux que l'on retrouve le plus dans les rayons des grandes surfaces, en l'occurrence dans votre groupe Carrefour?
Je ne suis pas sûr que ce soit toujours eux qu'on trouve le plus, ou en tout cas peut-être pas à la fin du mois ou pendant tout le mois, parce qu'ils n'ont pas pendant chaque mois peut-être la capacité de faire leurs courses dans les conditions dans lesquelles ils le souhaiteraient. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'en plus du phénomène qu'a très bien décrit M. Poulain, il se double d'un autre phénomène et qui rend le travail du distributeur très important, c'est que ça se double d'une inquiétude croissante sur la qualité de l'alimentation. Et vous entendez, comme nous, les mots de sain, de qualité, de traçabilité, de responsabilité prendre de plus en plus de place dans les préoccupations des clients. Et donc tout le travail d'un distributeur, et en particulier de Carrefour, parce que c'est son engagement historique et son engagement aujourd'hui, puisqu'on souhaite être le leader de la transition alimentaire pour tous, c'est de réconcilier notre capacité, qui est le métier et la raison pour laquelle la grande distribution est née, c'est-à-dire rendre accessible l'alimentation dans de bonnes conditions, et aujourd'hui rendre accessible le manger sain. Donc c'est un défi très important et formidable pour un groupe comme Carrefour.
Est-ce qu'une grande surface peut proposer aujourd'hui de la nourriture saine et variée à ses clients pour pas cher? Autrement dit, comment arrivez-vous à déterminer les prix pour assurer le bas coût et la qualité, Laurent Vallée? Je ne suis pas encore dans la transition alimentaire, hein. Je suis aujourd'hui, disons.
Non, ben, ça en fait partie. Parce que ce que nous avons indiqué, c'est bien la transition alimentaire pour tous. Dans notre esprit, ça n'est pas une qualité réservée à une forme d'élite. Et dans la grande distribution a fonctionné avec cette idée de démocratisation depuis toujours. Je ne dis pas qu'elle l'a toujours bien fait, mais c'est au cœur de l'identité du métier de distributeur. Les leviers sur lesquels un distributeur peut agir, c'est sa capacité à être lui-même le plus efficient possible, c'est à bien faire son métier, c'est-à-dire à être frugal dans son organisation, dans sa capacité à réduire ses coûts pour que ce soit transféré vers les prix. Un autre levier peut être sa marque de distributeur, c'est-à-dire réussir à garantir au travers d'une marque qu'il a conçue la qualité à un prix accessible. Et enfin, dans le travail qu'il fait avec ses partenaires, c'est-à-dire avec les fournisseurs, dans la sélection qu'il opère, dans la péréquation qu'il opère sur ses produits, d'offrir une gamme d'assortiments qui réconcilie le prix, le manger sain et le plaisir, en offrant bien sûr une grande liberté aux consommateurs, s'agissant d'un distributeur comme Carrefour, qui est un distributeur généraliste.
Jean-Pierre Poulain, sur ce lien que fait Laurent Vallée entre la grande distribution et la démocratisation.
La grande distribution a joué un rôle absolument essentiel dans la réduction des prix, dans l'accessibilité. Et moi, je milite pour un partage des responsabilités et que les différents acteurs, depuis la distribution, les différents transformateurs de tailles différentes et les agriculteurs, aient une attitude de responsabilité. Et de ce point de vue-là, dans les différentes actions qu'on va voir tout à l'heure, il y en a qui sont particulièrement intéressantes. La question étant de ne pas éluder quand même un élément essentiel qui est la tension sur les prix que le bas de la chaîne, à savoir les metteurs en marché, dont Carrefour est un des acteurs importants, fait peser sur l'ensemble de l'amont et en particulier les producteurs. On a vu qu'au moment des états généraux de l'alimentation, cette question était devenue centrale et on a eu un petit moment le sentiment que ça allait pouvoir donner un peu d'air à l'amont de la chaîne, aux agriculteurs, en termes très simples. Et ça semble pas être le cas.
Laurent Vallée.
Nous sommes tout à fait conscients de cet enjeu tout à fait essentiel, parce que la montée en gamme de l'alimentation pour nos clients doit être aussi celle des producteurs, et une montée en gamme que nous devons accompagner au travers d'une juste rémunération. Carrefour est historiquement un acteur engagé en la matière, et le mot-clé est la contractualisation qui doit être génératrice de valeur pour l'ensemble de la chaîne. Je partage tout à fait ce que vient de dire M. Poulain, pour garantir une stabilité dans la relation et une rémunération appropriée, en particulier dans le monde agricole, dont les états généraux ont bien montré combien leur évolution économique était délicate. C'est aujourd'hui l'un des axes forts de travail de Carrefour. On essaye de renouveler notre approche, on essaye de le renouveler avec des partenaires. C'est une démarche profonde que Carrefour ne réussira pas seul, mais qui évidemment doit parvenir par un engagement dans la durée à réduire nos prix de vente, mais en garantissant une juste rémunération. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous devons réussir à bien faire notre métier en la matière.
Jean-Pierre Poulain, je citais tout à l'heure cette étude qui établit un lien entre la consommation d'aliments de mauvaise qualité et les cas de cancer. On a su aussi, un peu plus tôt dans l'année, qu'il y avait un lien entre la consommation d'aliments de qualité incertaine et les cancers ou les maladies cardiovasculaires, et en particulier concernant les produits ultra transformés. Vous avez beaucoup travaillé sur l'obésité et sur le lien entre le mal manger, on dit aussi la malbouffe, et les problèmes de santé. Est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine façon, la grande distribution et cette préoccupation aujourd'hui d'un grand groupe est liée au fait qu'on a de plus en plus de problèmes en termes de santé publique entre ce qu'on mange et la façon dont on vit mal les choses?
C'est une question centrale, le rapport au risque. En fin de compte, depuis les crises en cascade qu'on a connues à la fin des années 90, début 2000, s'est imposée une grille de lecture qui est une grille de lecture du risque sanitaire autour de l'alimentation. Elle a des conséquences positives, c'est-à-dire qu'on devient plus attentif aux liens alimentation-santé, il le faut. On devient plus attentif aux conséquences, notamment l'obésité, le diabète de type 2, ces questions-là. Mais en même temps, ça a eu un autre effet, c'est-à-dire que ça a hiérarchisé les qualités de l'alimentation et surtout les risques. Alors il y avait les risques sérieux. Vous en avez fait l'écho, il y a la santé qui est un vrai problème, il y a l'obésité, il y a des crises sanitaires. Et puis il y aurait d'autres dimensions de l'alimentation qui seraient un peu secondaires. De temps en temps, on entend dans les allées des ministères ou dans les états-majors d'entreprise des conneries de bobos. Vous voyez, c'est le rapport aux animaux, c'est le rapport au modèle agricole. Et il me semble qu'ici, il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est prendre en compte à la fois des éléments qui renvoient au risque exprimé en termes de mortalité et de morbidité, mais de l'autre côté, prendre en compte ce qu'on peut appeler des inquiétudes des consommateurs, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie un petit peu à ce dont parlait tout à l'heure Thierry Marx, qui est qu'en fait l'alimentation, bien sûr, ça a un lien avec la santé, mais bien sûr, c'est aussi un fait de culture, c'est quelque chose qui fait des liens entre tous les hommes, depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, c'est quelqu'un à partir duquel on crée de la socialité dans la famille, dans les événements qui tournent autour de l'alimentation. Et cette dimension-là, du rapport à l'animal, du rapport au modèle de production agricole, en fin de compte, c'est des préoccupations de tout premier plan d'une société moderne.
Laurent Vallée, c'est aussi dur d'échapper aujourd'hui à cette exigence de transparence. Vous parlez de la traçabilité et on va y revenir parce que c'est l'un des points forts de votre plan d'action Act for Food. Mais cette transparence est exigée aussi par un certain nombre d'applications. On pense à l'application Yuka, de sites, on pense au site Megoo.fr qui décortique les références de la grande distribution et des marques, ou encore des logos comme Nutri-Score. Et d'ailleurs, l'étude auquel je faisais référence sur le lien entre malbouffe et cancer part de ces aliments qui sont moins bien notés par le Nutri-Score. Le Nutri-Score informe les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des aliments. Aujourd'hui, 6 grands groupes alimentaires refusent d'être notés par Nutri-Score. Il y a Coca, il y a Nestlé, il y a Mars, il y a Unilever, il y a Mondelez, il y a PepsiCo. Est-ce que vous l'utilisez, ce logo Nutri-Score? Est-ce que vous savez et est-ce que vous faites attention à chaque fois à d'où viennent les produits? Et je pense bien sûr au scandale des lasagnes de cheval ou à Lactalis, et Carrefour était concerné par ces deux scandales-là. Est-ce que de ce point de vue, les choses ont déjà changé avant même de penser à la transition alimentaire?
Alors, c'est au cœur du sujet de la transition alimentaire, pour la raison qu'indiquait M. Poulain et que je partage pleinement. L'alimentation n'est pas une marchandise comme une autre, elle est porteuse d'un certain nombre de valeurs, de symboles, et donc c'est la raison pour laquelle il faut être d'autant plus attentif à ça. Vous avez dit qu'on avait été concerné par des crises. Si vous prenez la crise Lactalis, parce que nous avons mis en marché des produits Lactalis que nous avons retirés le plus tôt possible, et nous travaillons à avoir de meilleurs mécanismes de traçabilité et de rappel, et nous sommes notamment le premier distributeur en Europe à avoir utilisé la technologie blockchain qui nous permet d'avoir un registre sécurisé d'informations sur nos filières qualité. Donc on l'a lancé s'agissant du poulet, on l'a aujourd'hui fait pour nos œufs et pour nos tomates, et on a la volonté de le généraliser pour apporter à la fois au consommateur, parce que ça va jusqu'à lui, il peut le vérifier avec son téléphone, mais aussi nous, dans notre chaîne de vérification de la qualité, une information absolument fiable sur l'origine du produit. S'agissant des applications, nous travaillons avec Open Food Facts, qui est l'application qui a les bases de données auxquelles se branchent d'autres applications pour leur donner en open source certaines de nos données. Donc là-dessus, nous serons transparents s'agissant de, en particulier, notre marque de distributeur que j'évoquais tout à l'heure. Et s'agissant du Nutri-Score, nous allons, en particulier sur notre site Internet, que nous venons de refaire complètement, progressivement indiquer, en particulier sur nos marques, la valeur du Nutri-Score et travailler à mettre ces indications, sachant que dans d'autres pays, nous ne sommes pas qu'en France, nous utilisons ce type de système. Je pense par exemple en Pologne, où nous avons une très bonne coopération avec les pouvoirs publics localement sur ce sujet. Et donc la transparence est une exigence collective de principe et éthique, mais aussi parce que c'est une exigence du client.
Carrefour, il faut le rappeler, c'est 12 300 magasins dans plus de 30 pays et c'est 105 millions de clients.
Ça sent bon chez vous.
C'est même, c'est ravioli.
Vous écoutez Les Bonnes Choses sur France Culture, c'est l'heure de la Madeleine 2. Alors on parle, Natacha Triou, de pauvreté et de précarité alimentaire. Eh bien, le plat dont vous allez nous parler, ou plutôt dont votre personnalité du jour va nous parler, ça n'est pas un plat de pauvre.
Alors la Madeleine de Romane Boringer est une Madeleine précieuse. L'actrice est devant et derrière la caméra de son premier film, L'Amour Flou. On écoute le choc culinaire de cette comédienne passionnée.
Moi, je suis une grande mangeuse et tout ça, j'adore manger et tout ça. Donc, des chocs culinaires, j'en ai eu des plus agréables que le foie de veau dans ma vie. Et j'en ai eu notamment un quand j'ai découvert ce que c'était que la truffe. J'étais un soir chez des gens tout à fait très agréables, dans une maison dans le sud de la France, et Marianne avait fait une salade de plus grande simplicité, comme quoi, salade de mâche avec truffe râpée. Et donc, je mets la fourchette à ma bouche et là, je dois dire, choc culinaire. Mais vraiment une espèce de sensation, de parcours, de pieds à la tête, comme si tout d'un coup, tout était absolument en éveil. Et j'ai lu plus tard dans le livre d'une femme qui est devenue d'ailleurs une camarade sexologue, qui s'appelle Magali Calisto, elle a écrit un livre sur l'orgasme culinaire. Et ben moi, j'ai découvert ça, je crois que j'en ai eu un une fois et c'est vraiment pas mal. L'orgasme culinaire procure une décharge émotionnelle inattendue. Un contexte particulier doté d'une disponibilité au plaisir représentant les deux facteurs favorables à l'expérience, le troisième facteur étant le produit lui-même, ou plutôt la représentation subjective que l'on s'en fait. Ces trois critères agissent comme des vecteurs propices à l'érotisation d'une dégustation, sachant que l'orgasme culinaire engage un investissement libidinal décentré des traditionnelles zones génitales. Voilà. Parce que je m'en souviens, les larmes aux yeux, quoi. C'était vraiment... C'est une sorte de choc. J'ai été surprise, j'ai été prise par surprise, honnêtement. Je ne connaissais pas du tout. Je crois que j'ai un truc avec ça. Là, récemment, en Italie, j'étais avec mes enfants à Rome et j'étais dans un restaurant. J'ai mangé une burrata qui était, sur laquelle étaient disposées des... Alors ça, je ne connaissais pas. Des perles de truffes. Je me dis que c'est comme la cuisine moléculaire. Et j'ai rééprouvé en face de mes enfants, mon Dieu, cette deuxième orgasme culinaire à Rome. Donc je pense que c'est vraiment la truffe hein, qui me fait cet effet. C'est assez fort, hein, c'est des frissons dans le dos, petite montée de chaleur, c'est tout un... Enfin, je vous laisse imaginer, mais c'est proche.
Laurent Vallée, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du groupe Carrefour, que vous êtes responsable de la transition alimentaire du groupe. On s'interroge aujourd'hui de notre plat du jour, des bonnes choses, sur le fait de savoir si bien manger est réservé aux riches. Est-ce que, typiquement, Carrefour propose des bonnes truffes dans ses grandes surfaces?
Écoutez, j'espère, comme ça je peux pas vous répondre. Je ne sais pas si on offre les meilleures truffes au meilleur prix, mais je suis sûr qu'on en trouve dans nos magasins.
Précisément pour montrer que bien manger, ça ne doit pas être réservé aux riches, Carrefour donc a lancé un vaste plan d'action intitulé Act for Food pour, je cite, permettre à tous de manger mieux partout, tous les jours et sans payer plus cher. Campagne lancée avec force, campagne publicitaire. Est-ce que c'est autre chose qu'une grande opération de communication, tout ça?
Je crois, et c'est ce que nous défendons. Ça s'inscrit dans un plan de transformation profond de Carrefour pour pour devenir le leader de la transition alimentaire pour tous, et donc de répondre aux nouveaux enjeux alimentaires et aux nouvelles attentes du consommateur. Or, je crois que ce que tout le monde constate, c'est qu'en la matière, les discours ne valent pas grand-chose et qu'il faut raisonner et parler aux consommateurs sur le mode de la preuve et sur le mode de l'engagement. Et c'est ce que veut traduire la plateforme Act for Food, c'est pour traduire une série d'actions concrètes que Carrefour mène dans l'ensemble des pays dans lesquels il est implanté pour améliorer la qualité des produits, pour proposer à ses clients des produits plus sains, plus respectueux de l'environnement, plus durables et toujours à un prix abordable.
On sait que le secteur est en pleine révolution, on sait aussi, on l'entend, même si 70% des Français consomment encore en supermarché, que les hypermarchés, en revanche, sont sur le déclin. Est-ce que la transition alimentaire, Laurent Vallée, n'est pas malgré tout contradictoire avec le concept même d'hypermarché ?
Non, je crois pas. Vous savez, aujourd'hui, les clients, ils veulent consommer avec le plus de canaux de distribution possible. C'est-à-dire qu'ils attendent d'un bon distributeur d'être le plus disponible, le plus proche d'eux. Ça veut dire que si vous faites vos courses pour le week-end, vous irez peut-être en hypermarché. Si vous faites votre plein en zone urbaine dans la semaine, ce sera dans un supermarché. Vous voudrez aussi consommer à travers votre application, peut-être faire 50 mètres pour aller dans un magasin de proximité. Et donc, il faut offrir toute cette gamme parce que dans l'accessibilité, il y a le prix que j'ai déjà évoqué, mais aussi la capacité à offrir à un consommateur de plus en plus exigeant qui veut avoir accès aux produits qu'il attend dans les meilleures conditions partout, à toutes ces manières de lui apporter dans les meilleures conditions possibles les produits. Et là, Carrefour, qui a toutes ces possibilités, y compris l'hypermarché que vous mentionniez, puisque c'est lui qui l'a inventé, a cette capacité d'apporter à ses clients les meilleurs produits dans les meilleures conditions.
Jean-Pierre Poulain, sociologue et anthropologue de l'alimentation, avec quel œil regardez-vous cette histoire de transition alimentaire pour tous ?
Je suis à la fois enthousiaste par un certain nombre de choses, et je pense qu'il faut le dire, et je vais en pointer deux ou trois, et en même temps, il y a un certain nombre de questions. Alors, quelques enthousiasmes. Le premier enthousiasme, c'est du bio français. Ça me paraît une bonne chose, parce que lorsque Carrefour a lancé sa boule bio, il y a eu beaucoup de difficultés à trouver des céréales bio en France. Et donc, on a importé beaucoup de céréales venues d'Europe de l'Est, dans lequel la production en bio respecte un cahier des charges, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens. Mais pour autant, ce qui se passe à l'intérieur, les résidus éventuels, quand on a produit dans des pays dans lesquels pendant des années on a géré l'industrie par exportation, externalisation des déchets, il y a des choses qui se baladent, des métaux lourds un peu partout, et on n'est pas complètement sûr, même si ça a été traité avec un respect des cahiers des charges, que le résultat et d'aussi bonne qualité. Je me rappelle d'un directeur scientifique de l'INRA qui disait « c'est pas plus dangereux que le reste ». En l'occurrence ici, le rapatrier sur une problématique française, ça me paraît une excellente chose.
Donc ça, c'est pour l'enthousiasme.
Ah oui, ça, c'est pour l'enthousiasme.
L'autre enthousiasme.
L'autre enthousiasme, c'est les poissons. Là, on est dans une démarche responsable. Après, je suis un peu plus nuancé sur un certain nombre de choses. Si vous voulez réduire ou supprimer l'utilisation des pesticides, réduire ou supprimer les traitements antibiotiques, ici, on est dans quelque chose qui relève aussi de l'obligation de moyens. Et est-ce qu'on arrivera un jour à passer à l'obligation de résultat ? Peut-être qu'on pourrait donner la parole à Laurent Vallée, parce que j'imagine qu'ils y ont travaillé là-dessus.
Eh bien, nous allons la lui donner, Laurent Vallée. Et ce sera le mot de la fin.
Écoutez, sur les engagements que nous avons pris, et c'est la raison pour laquelle on a retenu le qualificatif de transition alimentaire, nous sommes conscients que ces engagements, comme le travail que nous avons à accomplir, est un mouvement. Il faut, avant de savoir si on sera obligation de moyens, obligation de résultats, voir concrètement sur ces engagements, sur les produits sur lesquels nous pouvons les appliquer, quelles conséquences ça a et à quoi ça aboutit. Donc, pour l'instant, nous sommes dans un mouvement. Nous avons conscience que ça prendra du temps, y compris pour notre entreprise, parce que ça s'inscrit dans un plan de transformation. Mais je suis sûr qu'on pourra répondre au bout de quelques temps lorsqu'il y aura la traduction concrète de ces engagements sur la durée.
Merci beaucoup, Laurent Vallée, secrétaire général du groupe Carrefour, responsable de la transition alimentaire du groupe. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Poulain. Vous étiez en duplex de France Bleu Occitanie à Toulouse. Et c'est l'heure de la cerise sur le gâteau présentée par Pierre Hiverna. Pierre Hiverna, aujourd'hui, vous êtes à Turin, vous êtes loin, vous êtes en Italie. Salone del Gusto, Terra Madre, c'est le nom d'un très grand festival, un salon alimentaire.
Absolument, Caroline, c'est même à Turin aujourd'hui le plus grand rassemblement de penseurs et de démonstrateurs de l'alimentation de demain. Ils sont réunis sous la bannière effectivement de Terra Madre Salone d'Augusto, qu'il n'est sans doute guère utile de traduire. C'est la 12e édition donc de cette biennale qui depuis 24 ans, sous l'autorité de son fondateur Slow Food, présidé par Carlo Petrini, démontre inlassablement qu'une autre façon de nourrir la planète est non seulement possible, mais une impérieuse nécessité. Et Nicolas Hulot ne me contredira pas si je dis que l'action dans la durée est aussi nécessaire que la réponse aux urgences. Terra Madre n'est d'ailleurs pas tout à fait le seul événement à faire avancer les choses. On notera le fantastique travail du célèbre chef danois René Redzepi, qui vient d'achever à Copenhague la 6e édition de son MAD Symposium, que l'on traduira cette fois-ci, car MAD n'implique pas une réunion de fous, mais signifie repas ou nourriture en danois. René Redzepi y réunit chefs, restaurateurs et producteurs du monde entier, parce qu'il a très vite compris, au fur et à mesure qu'il grimpait dans le firmament des étoilés de la gastronomie, que les stars doivent donner l'exemple. Les conférences de MAD sont particulièrement exemplaires en termes de diffusion des idées, car elles sont toutes filmées dans leur intégralité et accessibles en ligne gratuitement sur le site MAD. À la différence, par exemple, de la très fermée Food and Agriculture Conference de Stockholm, et qui compte aussi dans le paysage, qui a mis pour sa 2e édition en juin dernier autour de la table tout ce que le monde académique mondial produit de plus pointu en matière d'idées sur l'avenir de l'alimentation. Et malheureusement, c'est une manifestation qui est réservée à ceux qui peuvent se l'offrir, avec un ticket d'entrée qui avoisine les 1000 euros. Et puis la France n'est pas en reste avec la 2e édition du Don't Food Forum. Toutes ces rencontres ont un point commun. Rien ne peut se penser tout seul dans son coin. Aucune politique ne peut s'imaginer avec des frontières et rien n'est plus mondial que la nourriture.
Mais retour à Turin, donc, où vous êtes, quelle est la spécificité de Terra Madre, Pierre ?
Alors, eh bien, disons Caroline que là, c'est assez exceptionnel du point de vue de la vision mondiale, parce que Terra Madre a réellement pris une sérieuse avance. Je suis entouré, enfin, pas tout à fait, mais presque de 5000 délégués qui sont venus de 160 pays. On frise là la représentativité de l'ONU. Et avec les sentinelles Slow Food qui forment l'arche du goût, on dessine une carte mondiale des bonnes pratiques. Et oui, c'est là la bonne idée de Terra Madre. C'est de marier discours et réalité avec ces fameuses sentinelles. Alors vous me direz, Caroline, mais qu'est-ce donc que ces sentinelles ?
Tout à fait, j'allais vous poser la question.
Ce sont des produits exemplaires dans leur mode d'élaboration. Chaque projet de sentinelle doit ainsi établir un protocole de production qui passe par éliminer ou réduire les traitements chimiques, employer des méthodes qui respectent le bien-être animal, défendre des races natives et les variétés horticoles locales, et enfin, utiliser des emballages écologiques. Un exemple, l'année dernière, Slow Food a franchi le palier de la 500e sentinelle avec un produit assez exceptionnel qui est le piment serrano de Tlaola du Mexique. C'est une sentinelle qui est totalement féminine, symbolisant l'engagement des femmes autochtones et l'émancipation sociale et économique liée à la redécouverte et à la valorisation de la biodiversité. Parce que les produits, ce sont avant tout des femmes et des hommes citoyens qui les fabriquent et bien sûr, les sentinelles font aussi de la politique.
Merci Pierre Iverna et buon salone del gusto.
Grazie.
Les bonnes choses se poursuivent en réécouter en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et nos deux techniciens du jour à Paris et à Toulouse, Loïc Delpuech et Pierrick Monsigny, vous souhaitent une excellente journée à l'écoute de France Culture et dans un instant, ce sera le journal.